BFM Bourse, le club de la bourse.
Et si vous avez raté ce qui précède, John Plassard était avec nous tout à l'heure, notre point quotidien sur la présidentielle américaine. Parce que pendant ce temps, la campagne présidentielle avance aux États-Unis. C'était à 15h30 dans USA Today. Si vous avez raté le direct, le replay est disponible sur notre application BFM Business. Vous allez dans BFM Bourse et dans les replays. Voilà, ils sont tous disponibles dans cette application. N'hésitez pas. Notre club s'ouvre ce soir pour nous accompagner. Hervé Gouletker, il vient d'enjamber, en tout cas de battre les embouteillages parisiens. Bonjour, bonsoir Hervé.
Bonjour Guillaume.
Ravi de vous retrouver. Oui, parce que le centre de Paris est un peu congestionné avec la visite de Xi Jinping.
Il y a un seul président chinois et beaucoup de policiers.
Conseiller économique du cabinet de conseil Accuracy. Bravo d'avoir réussi à arriver jusqu'à nous quand même. Hervé Gouletker. Et puis Céline aussi nous accompagne ce soir. Céline Picmal-Prade, présidente de Picmal-Houghton Investment. Rebonsoir Céline.
Rebonsoir,
rebonsoir puisque vous nous accompagnez en fil rouge. Vous étiez avec nous dans la précédente demi-heure pour le bullshitomètre. Puisque Xi Jinping vous a mis des bâtons dans les roues. Effectivement, le centre de Paris est un poil embouteillé, congestionné, paralysé ce soir, avec la visite du président chinois qui, ce soir, Xi Jinping sera accueilli à l'Élysée avec son épouse pour un dîner d'État. Ben allons-y, allons directement dans cette thématique de la Chine. Quelle place pour la Chine dans les portefeuilles boursiers et déjà, quel avenir pour les relations franco-européo-chinoises? C'est un peu quand même l'enjeu et l'idée autour de ces échanges aujourd'hui à Paris entre les deux présidents. Et qui dépend le plus de l'autre quelque part? Parce qu'on dépend beaucoup de la Chine, mais à quel point la Chine dépend-elle de l'Europe? De l'Europe et de la Chine, qui dépend le plus de l'autre, d'après vous, Hervé?
En fait, historiquement, si on remonte aux décennies passées, on pouvait dire que la Chine était un marché, un formidable marché, puisque un marché qui s'ouvrait, une classe moyenne qui grandissait en nombre, et donc...
N'hésitez pas à vous approcher du micro, Hervé.
Ah, bon. Je m'approche du micro, alors.
Ou approchez votre micro, c'est ça.
Voilà. Voilà. OK. Donc, une Chine qui était une espèce de marché très prometteur. Et donc, voilà, on avait besoin de la Chine. Le meilleur exemple, c'est l'Allemagne. La croissance allemande a quand même été bien tirée par des exportations, beaucoup d'exportations chinoises. Aujourd'hui, on est dans un schéma un peu différent. Le modèle économique chinois a changé. C'est plus un modèle tiré par l'offre et plus un modèle tiré par une montée en gamme de l'offre chinoise. Et ce qu'on voit clairement aujourd'hui, c'est que la Chine met le paquet sur toutes les technologies d'avenir. Et ce faisant, pour être compétitif, a besoin d'aide publique et a besoin de produire beaucoup. Plus, en fait, que ce que le marché chinois ne peut absorber aujourd'hui pour des tas de raisons. En fait, une volonté politique de ne pas dynamiser de trop la consommation intérieure chinoise.
Mais pourquoi, Mais pourquoi une volonté politique de ne pas trop dynamiser la consommation intérieure? C'est paradoxal pour l'économie qui, justement, veut devenir une économie de consommation à son tour. C'est très paradoxal.
Il y a deux raisons
à cela. Le paradoxe est chinois en même temps. Ils aiment les paradoxes. Ouais.
Il y a deux raisons à cela. Une raison, aujourd'hui, on regarde d'abord l'offre et pas la demande, la montée en gamme. Et donc, il faut faire des investissements, il faut faire de la recherche et développement. Et une raison de dimension plus politique et plus morale, en fait, on veut que les Chinois travaillent, épargnent et dépensent moins. C'est une vision un peu peut-être confucéenne ou maoïste, ou un mélange des deux, de la Chine. Et donc, aujourd'hui, la seule... Le débouché en termes de demande, s'il y a une contrainte sur la demande intérieure, c'est la demande extérieure, d'où ce dont on a sans doute parlé lors de la réunion, le président Xi, Madame von der Leyen, Monsieur Macron, c'est-à-dire des ventes massives de produits chinois à prix relativement bas, relativement au coût. Que l'on a en Europe aujourd'hui et comment y faire face. Alors, soit les Chinois mettent les pouces tout seuls, soit
L'Europe taxe l'importation des véhicules chinois. Ouais.
Donc, on en est là aujourd'hui.
Effectivement, on en est là. Les constructeurs de véhicules chinois ont devant eux 9 mois de stock. Voilà. Parce qu'effectivement, comme vous dites, c'est exactement ce que vous dites, ils produisent beaucoup, mais la consommation interne ne suit pas le rythme de cette production. Il faut donc écouler cette production ailleurs dans le monde. Et prioritairement en Europe, en l'occurrence.
En fait, les Américains ont déjà des niveaux de taxes plus élevés et dans le reste du monde, un reste du monde qui va plutôt moins bien. Alors, les économies émergentes vont correctement, mais les économies en développement ne vont pas bien aujourd'hui pour des tas de raisons liées à la macroéconomie internationale. Donc, acheter des véhicules plus cher aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, il y a des stockages, sachant qu'en plus, il y a un cycle des ventes de véhicules électriques en Europe qui est plutôt en train de passer par un point bas. Peut-être que ça remontera. Là encore, c'est un autre sujet. Mais tout ça, c'est compliqué pour les Chinois et compliqué pour les Européens.
Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre, ces rencontres multiples entre aujourd'hui et demain entre Emmanuel Macron et Xi Jinping en France ?
J'en attends pas grand-chose, mais pour compléter ce que disait Hervé, effectivement, on comprend bien qu'on est confronté à une problématique géopolitique nouvelle. On était dans un monde qui était très clairement dominé par les États-Unis, et on voit que la Chine veut avoir un monde plus multipolaire. Donc on est en train quand même de vivre un moment de bascule géopolitique assez clair depuis quelques années, et donc la rencontre d'aujourd'hui en est un petit peu le symbole.
On se met dans la peau des Chinois. Met juste une seconde dans la peau des Chinois, Céline. Oui. On peut se dire que l'Europe est un terrain de jeu et un lieu de consommation, très bien, des débouchés pour la production chinoise, c'est très très bien, mais aussi d'un point de vue géopolitique, si l'Europe parvient à peu, alors s'affranchir des États-Unis, en tout cas, trouver une autonomie croissante, qui est aussi l'objectif d'Emmanuel Macron, du point de vue chinois, ce sera aussi positif, parce que le but des Chinois, c'est malgré tout de parvenir à affaiblir l'omniprésence, l'omnipotence internationale des États-Unis. Si l'Europe conquiert une forme d'autonomie, du point de vue chinois, ce sera sans doute vu positivement.
Donc effectivement, ce que je disais à l'instant, c'est effectivement leur désir d'avoir un monde plus multipolaire avec d'autres intervenants que le seul intervenant américain.
Donc de ce point de vue, l'enjeu de puissance européen peut être appuyé par la Chine.
On ne sait pas exactement, mais en tous les cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer, et qu'en tous les cas, on parlera des marchés tout à l'heure, mais ça nous conduit à une incertitude géopolitique qu'on n'avait pas peut-être connue depuis très longtemps. Donc ça, c'est un petit peu le nouveau monde qui se dessine, avec de l'incertitude géopolitique. Et après, pour rebondir sur ce que disait Hervé à l'instant, dans ce nouveau monde, effectivement, on a des marchés qui consomment, des marchés qui produisent, et aujourd'hui, moi, le parallèle que je ferais, on a beaucoup fait le parallèle entre la Chine et le Japon en disant, mais finalement, la Chine est aujourd'hui au niveau qu'avait le Japon en 89. À mon avis, aujourd'hui, le parallèle, je le ferais plutôt avec le positionnement qu'avait le Japon au début des années 80. Pour moi, aujourd'hui, ces entreprises chinoises qui débouchent en Europe, enfin qui déboule en Europe, avec des automobiles comme les voitures BYD, avec des panneaux solaires, avec des puces qui sont à bas prix, me rappelle beaucoup plus le positionnement qu'avait eu le Japon. Donc on avait eu des entreprises qui avaient été effectivement soutenues par l'État japonais dans les années 60-70, et au départ on s'était dit, mais finalement ce sont des entreprises qui nous proposent de la quincaillerie de basse qualité, et on avait balayé ça d'un revers de main comme s'il suffisait juste de mettre des tarifs douaniers à Poitiers pour les arrêter. Et on avait vu que c'était plus complexe que ça, et aujourd'hui je pense que le monde a changé et que les entreprises chinoises, elles offrent des technologies qui sont nettement plus avancées que ce qu'on pense, et leur avantage compétitif, il va, bien entendu, il a été favorisé par la taille, mais il va au-delà de la taille. On a aujourd'hui un savoir-faire dans le renouvelable qui est indéniablement détenu par les Chinois, que ce soit sur les batteries électriques, sur l'éolien, sur le solaire et sur, plus largement, la chaîne de production électrique et verte. Et donc ça, c'est une grosse problématique pour nous, Européens, parce qu'effectivement, nous n'avons pas d'énergie. Donc, contrairement aux Américains qui pourraient se dire, ben, moi, de toute façon, je reste sur le pétrole. Nous, on n'a pas non plus de pétrole. Donc, effectivement, comment on fait ? Et on avait voulu propulser la bascule vers les énergies renouvelables. Si on bascule vers le renouvelable et qu'on veut le faire à un prix raisonnable, on va avoir des difficultés à ne pas le faire en utilisant la technologie chinoise. Et ça, c'est une grosse problématique pour nous en Europe aujourd'hui. Et donc, je pense que ça risque d'être un peu plus compliqué pour les entreprises européennes de ce segment. Et je pense toujours qu'il y a des choses à faire en investissant dans des industries chinoises qui ont un savoir-faire dans ce
enfin,
domaine-là.
Malgré les aléas politiques, enfin quand même, il y a eu des aléas politiques quand même, des surprises, des décisions parfois arbitraires, aléatoires, etc. Des disparitions de patrons dans la tech, par exemple, ces dernières années. Ça vous refroidit pas du tout. Enfin, et puis vous dites réinvestir en Chine, mais le marché chinois rebondit déjà. Là, la tech chinoise, là en 3 mois, a repris 30%. Vous dites pas grave, on y va, et même si un risque politique, on y va malgré tout.
Alors moi, notre travail en tant qu'investisseur, c'est d'investir en nous. Enfin, bien entendu qu'il y a un risque politique, mais on me fait le parallèle avec la Russie. La Russie, c'était quand même pas du tout le même type d'industrie. C'était pas du tout le même type de savoir-faire que les entreprises auxquelles on est confronté aujourd'hui en Chine. La Chine, c'est quand même, voilà, on le rappelle, 20% du PIB mondial, une superpuissance sur les technologies renouvelables, 70 à 80% de certains domaines sur lesquels ils vont avoir une longueur d'avance très importante. Donc je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué pour la Chine que pour la Russie que de juste balayer d'un revers de main en disant dans nos portefeuilles, on ne veut pas en avoir. Donc je pense que c'est quand même un marché qu'il faut considérer. C'est un marché aujourd'hui qui est très, très peu cher, très peu détenu sur lequel, jusqu'à présent, les Européens ont le droit d'investir. Donc je pense qu'il ne faut quand même pas non plus se freiner nous-mêmes s'empêchant d'investir. Et il y a des entreprises domestiques qui peuvent être intéressantes, mais des entreprises exportatrices qui me semblent aujourd'hui intéressantes aussi.
Hervé, expliquez-lui. Mais tout n'est pas rose en Chine quand même, loin de là. Et par ailleurs, la Chine aussi a des difficultés économiques, un vieillissement démographique aussi rapide, voire peut-être encore plus grave que celui qu'on vit ici en Europe ou encore aux États-Unis. La population chinoise décline. C'est pas le cas de la population française, par exemple, Hervé.
Oui, alors pour reprendre les propos de Céline, je ne suis pas d'accord avec tout. En fait, il me semble d'abord que les Chinois peuvent vouloir enfoncer un coin dans la solidarité entre les États-Unis et l'Europe. Il n'ira pas très loin à ce coin, même si évidemment quand on fait la visite de la France et puis après des deux vilains canards que sont les Serbes et les Hongrois, on envoie le message qu'on peut enfoncer un coin. Je pense que le monde est, en fait, a une multilatéralité un peu spéciale. Il y a un camp américain avec ses alliés, pas mal d'alliés. Il y a un camp chinois avec certains alliés, pas trop d'alliés, et puis il y a un monde qui se cherche entre les deux, et l'enjeu, je pense, tant pour l'Occident que pour la Chine, c'est en fait ce reste du monde, et dans ce reste du monde, il y a l'Inde. On est en train de vivre des élections en Inde, ça c'est vraiment important, mais on va essayer d'être moins brutal avec la Chine que les Américains le sont, mais on restera dans le camp américain pour des raisons qui sont claires. Le Japon, Le Japon, c'est vrai qu'on est passé des gadgets japonais, vous avez raison Céline, des années 60 à de la high-tech des années 80. Mais les Japonais, peut-être pas toujours avec la politesse voulue, vendaient aux Américains, à leurs grands alliés. Alors qu'aujourd'hui, les Chinois, ils veulent vendre à quelqu'un qui est à la fois un concurrent, un client, un compétiteur. Donc en fait, c'est quand même d'une nature un petit peu différente. Quand les Japonais ont lancé leur action de vente tout azimut, on pouvait dire on est dans une logique purement économique et on pouvait rester dans cette logique. Aujourd'hui, il y a un mélange entre l'économique et le politique. Et donc, c'est là un peu la limite de ce parallèle. Quant au dernier point, c'est-à-dire
investir
est-ce que le marché chinois est investissable pour un occidental, vous en savez plus que moi là-dessus, donc je dirais ça avec prudence. Mais il me semble tout de même que quand on est face à un pouvoir politique qui dit vraiment l'économique est au service du politique, l'économique se pliera aux volontés du politique, il faut quand même accepter qu'on peut avoir des mauvaises surprises. Et donc, on est sans doute moins face à un risque qu'à une incertitude. C'est-à-dire que quand on investit en Chine, on peut très bien voir les règles brusquement changer du tout au tout. Et ça, l'incertitude, ça se quantifie pas trop, quoi. Le risque, vous pouvez dire, j'y vais, je peux me dire que je vais avoir des profits de ceci, de cela, et vous dites, bon, ben voilà, je fais mes choix avec des scénarios différents. Là, on est face à une incertitude. La situation économique est pas très bonne. D'ailleurs, les chiffres du premier trimestre, excellent, en glissement sur un an, plus de 5% de croissance, mais ça a été tiré tout de même beaucoup par la dépense publique, par les dépenses d'infrastructures, puis par les exportations, quoi. Et ça, c'est un peu les limites du modèle. Ça serait de l'investissement privé, tout plein de tech. On dirait, waouh, c'est bien. Ça serait de la consommation privée, tout plein d'achats de produits modernes. On dirait, c'est bien, mais c'est pas vraiment le cas.
Match retour, Céline, justement, l'investissement en Chine. En tout cas, vous n'avez pas peur d'y investir. C'est ce que vous disiez avec force argument il y a un instant. Mais à quelle proportion pour la Chine dans les portefeuilles chez vous?
Alors, donc la Chine, c'est 20% du PIB mondial. Moi, dans mon portefeuille Action Internationale, c'est 25%. Donc, j'ai pas peur de dire qu'effectivement, aujourd'hui, notre métier, effectivement, bien entendu, qu'il y a des incertitudes, mais c'est quand même d'ouvrir la fenêtre, de réfléchir à être reposé et de se dire que tout a un prix. Voilà, tout a un prix. Et aujourd'hui, on a des valorisations qui sont les plus basses de la planète. En Chine et à Hong Kong, la bourse de Hong Kong en janvier avait quand même perdu 20%. Ça me semblait être quand même un point d'entrée. Il y a un moment où il faut raison garder, sauf effectivement à penser qu'on va fermer les bourses de Hong Kong et de Shenzhen. Jusqu'à présent, rien ne nous empêche d'investir. Les prix sont extrêmement bas et on a des sociétés, là je ne parle pas de... De la croissance du pays. C'est un peu le même parallèle quand on avait eu le tsunami sur le Japon. Je me souviens, j'avais pris une position, j'avais dit on va mettre 35% de nos investissements sur le Japon. Parce que je disais, mais écoutez, Fanuc, c'est une société qui vend des robots partout dans le monde. Daikin, c'est une société qui vend de l'air conditionné partout dans le monde. Évidemment, il y a eu un tsunami, il y a un drame nucléaire qui a lieu au Japon. La bourse de Tokyo avait été fermée pendant une semaine, mais à mon sens, ça n'empêche pas ces sociétés d'être investissables. Eh bien, aujourd'hui, j'ai des sociétés qui sont cotées à la bourse de Shenzhen ou à la bourse de Hong Kong, qui, à mon sens, ont des perspectives de croissance très importantes, tout simplement parce que, par exemple, quand on est AIA et qu'on vend de l'assurance partout en Asie, on va avoir de la croissance. Il y aura plus d'épargne de la part de ces épargnants dans les pays asiatiques au cours des prochaines années. C'est l'endroit au monde où il y aura la plus forte progression de l'épargne au cours des 5 prochaines années. 7,6%, on est bien au-dessus de ce qu'on va avoir en Europe ou aux États-Unis. Et ces entreprises, elles traitent à des valorisations totalement au tapis. Et c'est ça qui m'intéresse. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'on peut aller chercher des idées. On parlait de l'automobile. Une entreprise comme BYD me semble aussi intéressante. On est toujours à des multiples de 12 ou 13 fois les profits. On est très, très, très loin des valorisations de Tesla. Et on parlait d'une révolution. On a une révolution sur la voiture électrique qui va devenir moins chère que la voiture thermique et qui va avoir donc une augmentation de sa pénétration.
Dans vos portefeuilles,
ou non.
BYD, oui. Stellantis, Renault, non.
Non, mais non, parce que justement, il y aura des gagnants et des perdants. Hein. Donc, à mon sens, c'est un rouleau compresseur. On va sûrement reparler. Hein. Mais c'est un peu comme quand on a eu Toyota qui est arrivé sur le marché automobile il y a 30 ans. C'est plus qu'un gadget. C'est un savoir-faire, c'est un avantage technologique et c'est un coût qui est largement inférieur à tout ce qu'on a
dans 10 ans,
en Europe.
Dans 10 ans, Renault et Stellantis seront-ils encore là ou pas? Non mais, Hervé?
Bah, écoutez, je n'en sais évidemment rien.
On l'espère tous, mais...
Voilà, bon. il faut l'espérer. Dans cette révolution de l'automobile électrique, moi, il y a quelque chose qui me frappe dans cette histoire. Et alors, ça ne va pas être une réponse directe à votre question, Guillaume, mais je pense que ça vaut un peu urbi et orbi, donc pour tous les constructeurs. C'est-à-dire que on vend des voitures électriques neuves. Le relais de la vente des véhicules d'occasion ne se fait pas pour le moment. On ne vend pas de véhicules électriques d'occasion pour des questions de batterie, d'usure des batteries, qu'est-ce que ça veut dire? Donc moi, j'ai quand même l'impression que pour que la réussite de ce changement de technologie du moteur thermique vers le moteur électrique soit prouvée, il faudrait qu'on ait un marché de l'occasion qui se mettent en place, qui deviennent matures. On n'en est pas là. Donc en fait, c'est encore un marché qui se cherche. Hein. Bon, il y a ça, il y a l'autonomie des véhicules, hein, qui reste tout de même une énorme question. Donc moi j'ai l'impression que c'est un marché qui se cherche. Est-ce qu'aujourd'hui, la mue est déjà entièrement faite? Alors, des constructeurs chinois font le pari, BYD en est le meilleur exemple. Moi, je ne sais pas, mais pour tout de même rendre hommage à Céline sur un point, c'est que moi, je défends une vue d'ensemble, et Céline dit, Il y a des choix de valeur, il y a du stock picking à faire, il y a les niveaux de valorisation qu'il faut prendre en compte. Et sur tous ces points, elle a entièrement raison.
Et pourquoi pas l'Europe ? Non, mais attendez, en termes de, voilà, les marchés attractifs aujourd'hui, les astres qui s'alignent, on évoquait un petit peu l'attrait du marché chinois qui vous séduit, effectivement, Céline, mais pourquoi pas l'Europe ? On est très en retard en valorisation sur Wall Street, on aura une première baisse de taux en Europe avant la baisse de taux de la Fed. Bon, pourquoi pas l'Europe ? Un petit regain de croissance d'ailleurs aussi en Europe, ça semble réaccélérer la croissance ici en Europe. Pourquoi pas l'Europe ? Pourquoi pas la renforcer désormais dans vos portefeuilles, Céline ?
Alors, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire en dehors du marché américain. Parce qu'on n'a pas parlé des marchés dans leur ensemble, mais on reste toujours avec un marché américain qui est hégémonique aujourd'hui. Hein. C'est 66% de la capitalisation boursière mondiale aux États-Unis. Donc effectivement, on a un décalage total de performance entre le reste du monde et les États-Unis, et donc un boulevard pour des investisseurs qui sont effectivement en mesure de profiter de cette opportunité en Europe, dans les pays émergents, qui me semble extrêmement intéressant. En Europe, pour autant, je pense quand même que si on a à terme un essoufflement sur les États-Unis, je pense que, comme on disait, quand l'Amérique éternue, l'Europe s'enrhume. Enfin, je pense pas que ça soit si simple que ça. Avec des taux qui vont rester longtemps.
Sauf si la Chine accélère. Vous dites que la Chine, ça va aller mieux. L'Europe, elle dépend aussi de la Chine.
Mais il y a quand même un lien qui risque de se faire un moment ou un autre entre ces deux zones de la planète. Donc, il faut quand même être un tout petit peu attentif. Mais ceci dit, ça n'empêche pas de se positionner sur le long terme parce qu'on a effectivement des valorisations qui sont très basse sur beaucoup de dossiers, et j'en parle beaucoup, mais je pense qu'il y a un dossier qui reste très très intéressant pour le long terme, c'est Total Energy, qui est coté à la Bourse de Paris aujourd'hui encore, peut-être demain New York, mais toujours à Paris, et à mon sens qui est une société qui est très intéressante avec un coupon très élevé parce qu'il y a un boulevard sur l'énergie pour demain. On parle de la voiture électrique, mais pour l'instant on a quand même une transition qui doit se faire entre le charbon et autre chose. Le charbon et autre chose, c'est le gaz, et le gaz, c'est un des savoir-faire de Total Energy.
Sauf que Total Energy nous dit attention, parce que les Européens, les institutionnels européens investissent de moins en moins dans mon capital pour des raisons ESG, ils en ont de moins en moins le droit, et donc les Américains sont de plus en plus influents au sein de mon capital, au point effectivement que Total Energy réfléchit à faire de Wall Street sa place principale de cotation. Est-ce qu'on n'a pas là un retour de flamme de l'ESG ? Est-ce que, oui, on est tous pour la défense de l'environnement, Hervé, mais est-ce que la finance durable peut se dire responsable si à la fin elle aboutit à une perte de souveraineté européenne sur ces entreprises-là ?
Je pense que la question que vous posez, Guillaume, en fait, montre quelque chose qui est un vrai problème, c'est-à-dire que l'épargne européenne ne s'investit pas beaucoup en actions, et l'épargne européenne, pour partie, part aux États-Unis. On a un marché profond liquide, hein, les plus de 60% de la capitalisation actions mondiales aux États-Unis, ce n'est pas rien. Et je pense que le problème de fond, c'est que on ne fait pas assez de choses pour garder notre épargne chez nous. On ne fait pas assez de choses pour flécher l'épargne vers les marchés actions. Ça, alors, c'est typique dans le cas français. Pour beaucoup, ça vient de notre système de financement des retraites. Hein. Mais on pourrait avoir quelque chose de plus vertueux, c'est-à-dire à la fois d'efficace en termes de formation de l'épargne retraite des gens, et puis qui, en termes de financement, permettrait plus de choses. Et je pense que le problème, vous parlez de l'ESG avec un regard critique, mais en fait, si on veut financer la transition énergétique qui va coûter quelques petites centaines de milliards d'euros par année tout au long des prochaines années, si on n'arrive pas à mobiliser notre épargne, à l'empêcher de partir ailleurs, on aura de vraies difficultés. On a un excédent d'épargne en Europe, il faut en profiter, et il faut, dans la mesure du possible, transformer cet excédent en investissement, et l'investissement de la transition énergétique est là. Donc,
c'est pas l'ESG qu'on critique, les ambitions, elles sont nobles, le problème, c'est le chemin. Enfin, l'enfer est pavé de bonnes intentions, est-ce que là, on n'a pas un chemin pavé de bonnes intentions qui, malheureusement, commence à nous venir en boomerang. On le voit à travers Total, qui, plus le capital s'américanisera, et pardon, mais moins Total sera sensible à ces enjeux ESG qui sont pour l'instant surtout des enjeux aux yeux des Européens, plus que des Américains.
Je suis d'accord sur l'idée que...
Donc l'ESG se tire une balle dans le pied de ce point de vue.
Il faut qu'on ait alors je vais le dire comme ça, un capitalisme financier puissant en France pour que on arrive à imposer nos règles ESG. Sinon, on joue dans un jeu qui ne sera pas pour nous, et c'est le contre-exemple de Total.
Oui, les industries de défense, l'industrie de la défense, on imagine que les institutionnels européens ont du mal, de plus en plus, peut-être, à investir dans les entreprises européennes de défense pour des raisons ESG, et donc, bon, voilà, c'est aussi cette question de souveraineté qui se pose aujourd'hui. Mais on le découvre, voilà, c'est en marchant qu'on apprend à marcher, et c'est exactement ce qui se passe autour de l'ESG aujourd'hui. Aude nous appelle, Aude Kersulek, à 5 minutes de la clôture ici en Europe, depuis la tour Euronext. Bon, Aude, ouais, 5 minutes nous séparent de cette clôture, comment ça se présente ce soir sur le CAC?
Ah bah vous parlez de ESG, en tout cas la plus forte hausse du SBF 120, en tout cas qu'il est très stable, hein, mais la plus forte hausse du SBF 120, c'est Morel & Prom à 6,7% de hausse, parce que il y a eu une actualité, le groupe pétrolier justement a annoncé avoir reçu une autorisation de la part d'un régulateur américain, l'OFAC, pour poursuivre ses opérations au Venezuela. Morel & Prom qui détient une société justement au Venezuela, donc pour extraire du pétrole, qui donc obtient cette autorisation de la part de la régulation américaine pour explorer le pétrole. À mon avis, c'est pas tellement à cause de l'ESG, mais en tout cas, ça monte de 6,7%. Donc pour le groupe pétrolier, la plus forte baisse du jour, c'est Atos pour le moment, moins 4%.
Effectivement, Aude, on vous retrouve dans un instant pour la clôture effectivement en direct. Des publications à suivre cette semaine aussi. Alstom publiera mercredi. On verra si Alstom profite de courant ascendant, si la publication est bien appréciée, comme celle des autres mal-aimés du marché qui, sur leur publication la semaine dernière, ont rebondi. Téléperformance, par exemple, qui d'ailleurs aujourd'hui progresse encore, ou encore Worldline. Voilà, les mal-aimés du marché depuis la semaine dernière, depuis leur publication, tendent à remonter, à rebondir.